Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Ces conversations, je les imagine comme autant de portraits sensibles que je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Marie Gosselin, une artiste que j'affectionne particulièrement, tant ses illustrations font naître de belles et douces sensations à chaque fois que je les regarde. Marie nous partage les différentes étapes de son parcours, de la Normandie à Saint-Luc, en passant par Paris et Melbourne, pour finalement se poser à Lille, au nouveau lieu d'abord, puis aux ateliers Jouret à Roubaix. J'ai adoré enregistrer notre conversation là où Marie travaille, au milieu des couleurs qu'elle fait jaillir dans ce qu'elle crée. D'ailleurs, vous pourrez entendre par moments l'ambiance sonore des ateliers Jouret, celle dans laquelle Marie imagine des mondes nouveaux, poétiques et puissants. Si vous avez aimé cette conversation et que vous avez envie de soutenir ce travail qu'est la création d'un podcast indépendant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, à le noter, à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. C'est par ces actions que le podcast sera visible alors, merci à vous. Maintenant, je laisse la place à Marie et à cette belle conversation que nous avons eu le plaisir d'enregistrer ensemble. Bonne écoute! Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Je suis ravie de te recevoir d'ailleurs, puisque j'aime beaucoup ce que tu fais. Et peut-être je vais te laisser te présenter si tu veux bien.
D'accord. Bah, déjà, merci. Merci d'être venue jusqu'à Roubaix. Me présenter, c'est toujours la partie difficile. Hein.
Oui.
Mais c'est vrai que j'ai quand même eu le temps d'y penser un petit peu, depuis le temps. Donc, je m'appelle Marie Gosselin, je suis artiste, illustratrice et graphiste par moment. Je viens de Normandie. J'ai très vite bougé de Normandie pour faire ce que je voulais faire.
D'accord.
Disons que je ne trouvais pas forcément de formation que j'avais envie de faire là-bas. Donc,
okay.
Je suis vite partie, on va dire. J'ai fait une première année de mise à niveau après le bac à Paris. Puis, je suis allée à Saint-Luc-Tournai.
D'accord.
C'est comme ça que j'ai rencontré le Nord, on va dire. Parce que j'avais ma sœur qui faisait ses études à Lille.
D'accord.
Donc, c'était quelques allers-retours, quelques découvertes comme ça. Donc, après Saint-Luc-Tournai, j'étais en graphisme, illustration. Enfin, ouais, ça s'appelle graphisme, quoi. Une fois que ça, c'était en poche, on va dire, je suis partie à Bruxelles. Et j'ai voulu faire l'ergue, j'ai voulu faire un master à l'ergue, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, je suis repartie de Bruxelles.
Oui.
Je suis retournée en Normandie.
D'accord.
Puis comme une fois de plus, je trouvais pas ce que je voulais faire en Normandie, je suis partie à Paris. Et donc là, j'ai fait une année en motion design à Gobelin.
Ok.
Alors, j'habitais pas à Paris, je faisais quand même les allers-retours depuis la Normandie. J'habitais au-dessus de la boulangerie de mes parents. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon shop en ligne Up the Bakery.
Okay.
Parce que ça rappelle à toute cette période-là.
Oui.
Puis après Gobelin... Je suis retournée en Normandie, enfin je suis restée retournée en Normandie, enfin je sais plus trop là du coup, même moi je me perds. Au bout de 3 ans, je suis partie en Australie pendant un an, donc c'était en 2018.
Ok.
Je suis partie un peu les mains dans les poches, enfin quand même avec un ordinateur, et j'ai travaillé en tant qu'illustratrice, motion designer et graphiste sur place.
Ok.
Mais j'avais pas du tout de contact, donc ça s'est un peu fait sur le tas.
Mm-hmm.
Et je suis rentrée d'Australie et je savais plus trop où aller là du coup. C'est vrai que là j'avais besoin d'aller quelque part où je connaissais du monde et parce que c'était un peu fatigant à la longue de...
Ouais, de bouger et de devoir tout recréer à chaque fois.
Voilà, c'est ça quoi. Je suis là, j'avais un peu une fatigue à ce niveau-là. Donc je me suis retrouvée à faire un peu pique-nique douille entre 2-3 endroits comme ça. Et j'ai fini par venir à Lille. Donc je suis arrivée en 2019. Et peu de temps après mon arrivée, j'ai trouvé une place en atelier au nouveau lieu.
D'accord.
Et heureusement que ça s'est vite arrivé parce qu'ensuite il y a eu le Covid. Après, on va dire trois ans au nouveau lieu, j'ai voulu changer et je suis arrivée donc à Roubaix aux ateliers Jouret,
ici
même.
Ici, où on enregistre cette conversation.
Voilà, voilà.
Ok, super. Et est-ce que toi, donc, quand on, si on remonte un petit peu le temps, tu as toujours su que tu avais envie de, d'être artiste? Ou c'est quelque chose qui est venu au fil du temps?
Enfin, si, j'ai toujours su, oui. C'est vraiment, malgré quelques tentatives de trouver un métier sérieux avec des gros guillemets, parce que ce n'est pas du tout ce que je pense, mais on va dire que c'est... beaucoup de...
Non, un métier qui rassure les parents.
Oui, voilà.
Tu vois, ça, c'est peut-être pas mal.
c'est plutôt comme ça, ouais, qu'il faut le phraser. Désolée. Malgré, ouais, moult tentatives, ça a vraiment pas pris pour moi, parce que dans ma tête, c'était je ferai une école d'art ou je ferai des études artistiques, mais je sais pas encore pourquoi exactement, mais ça peut pas être autre chose.
Ouais.
Donc mon métier, je le connaissais pas, j'avais pas une vocation de métier, mais j'avais une vocation, on va dire, de création, quoi.
Ok. Et comment, en fait, t'as choisi d'aller à Saint-Luc, par exemple? Comment ça s'est fait et comment ça s'est passé là-bas, ces années-là?
Oui, non, bah, ah, je m'en rappelle très bien, en plus. En fait, il y a eu un reportage à la télé. C'était vraiment juste sur Saint-Luc. Et j'avais juste trop adoré le bâtiment. Et ils avaient un pigeonnier.
C'est très beau. Non, mais c'est vrai que le bâtiment est magnifique. Moi, je vous encourage à aller voir ceux qui ne connaissent pas Saint-Luc, même juste à passer devant, quoi. Ça, c'est vraiment super beau.
Et voilà, donc quand je me souciais de trouver une école pour mon avenir, le plus bel argument que j'ai trouvé, c'est « Waouh, on peut trop jouer à cache-cache là-bas, ça a l'air trop bien ». Et donc voilà, je suis partie à Saint-Luc. Okay. c'est aussi bête que ça.
Et ces années-là, comment toi tu les as vécues? Donc ta sœur était pas très loin.
Oui.
Comment ça s'est passé pour toi? Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça t'a? Comment ça t'a construite peut-être aussi par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, si ça a un effet?
Bah Saint-Luc, ça a été complètement pivot. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que avant d'arriver là-bas, je connaissais pas grand-chose. Hein. C'était, je venais d'une filière générale, je connaissais vraiment rien aux débouchés, aux métiers possibles. Aux techniques, enfin vraiment, je savais pas manier la couleur. Quand on regarde aujourd'hui,
oui, que tu fais
beaucoup de
c'est
couleurs.
Beaucoup de couleurs.
Donc, merci Saint-Luc. Mais en gros,
cet épisode n'est pas sponsorisé par Saint-Luc, mais
oui, pardon.
Non mais je rigole, c'est une blague. Hein, mais...
Ah là là. Mais je savais vraiment rien. Donc c'est pour moi, ça a été un moment important parce que j'ai eu l'impression de découvrir énormément de choses en très peu de temps. Quoi.
Ouais.
Donc c'était une explosion perpétuelle dans ma tête. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi aussi dans ce que je faisais.
Oui.
Parce que au début, c'est vrai qu'on arrive au milieu de personnes qui ont fait des lycées spécialisés ou qui ont des familles d'artistes, ou enfin voilà. Et moi, je me dis waouh, ok, j'ai vraiment pas le niveau. Et en fait, on est mis quand même très vite en confiance. Et au final, tout le monde était particulièrement sympa. C'est pas l'esprit était aussi très bon. Et donc ça permet d'explorer plus ce qu'on a en nous plutôt que de nous apprendre des techniques même. Enfin, plastique ou de l'infographie, quoi.
Ouais.
Voilà.
D'aller explorer un peu tes mondes intérieurs et ce que t'as, la créativité que t'as au fond de toi et de la faire ressortir peut-être sous différentes formes que toi-même t'aurais même pas imaginé.
Ouais, voilà, c'est ça. Et à coup de nuit blanche et de cafetière entière, mais c'était,
oui.
c'était sympa. C'était sympa.
Ok. Et donc après, donc, si on remonte, si on continue notre petit parcours, donc tu disais, t'as voulu faire un master, c'est ça? Ou non, t'es repassé par Paris d'abord?
Non, Paris c'était après.
C'était après.
Ensuite, c'est Bruxelles.
Bruxelles, ouais.
Oui, c'est j'ai voulu faire un master, mais dans la même filière, sauf que ça n'avait pas trop de sens, parce que je suis pas sûre que ce soit des... Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'avait pas de sens, parce que j'avais l'impression de refaire la même chose. Enfin, j'ai l'impression... Là, je fais du sur-place, et le sur-place, ça ne me plaît pas trop. Donc, très vite, quand j'ai vu que j'avais la sensation de perdre mon temps... Alors, attention, je dis bien ça par rapport à moi-même, hein.
T'avais plus envie de continuer.
Ouais, voilà,
en fait.
Je fais ça, c'est bon. Allez, avoir un master dans ce que je fais, je suis pas sûre que ce soit, cohérent ou obligatoire, quoi.
Oui, en fait, t'avais plutôt envie de continuer à apprendre, à découvrir des nouvelles choses plutôt qu'à
se mettre un peu plus en difficulté, quoi.
Okay.
Enfin, parce que là, je me dis, où est la flemme, tout simplement.
Et donc, c'est ce que tu as fait à Paris.
Paris, oui, parce que là, du coup, c'est, on va dire que l'enjeu, c'était beaucoup plus technique. Et on passait de l'image statique à l'image animée.
Ouais.
Donc, alors, je n'ai pas fait en cinéma d'animation, j'ai fait en motion design. Donc, c'était à l'époque une formation en un an. Je crois que ça a un peu évolué à ce niveau-là. Mais donc, on ne nous apprenait pas à forcément avoir des talents plastiques ou quoi que ce soit, mais à être... à savoir raconter une histoire avec le mouvement, quoi. Avec, avec des formats courts, mais quand même, quoi. Et aussi d'être un peu plus immergé dans un fonctionnement, on va dire, de, d'agence et de comment dire, de monde du travail, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, je suis un peu arrivée avec mes... mes vieilles habitudes à vouloir faire des nuits blanches, je m'ai dit non mais Marie, là c'est 18h, stop, tu rentres chez toi, c'est fini. Et ah bon ? Bon, bah d'accord alors. Ok.
Pas de bonne soirée alors.
Bah demain alors, qu'est-ce que je vais faire ? Enfin, non, j'étais quand même occupée à prendre le train tous les jours depuis la Normandie, donc quand même. Mais c'était une année que j'ai vraiment adorée. C'était pas du tout de la torture de prendre le train tous les jours. C'était même plutôt sympa. Je sais que. Beaucoup de gens ne comprendraient pas, mais j'aimais beaucoup.
Mmh. Bah après, si tu faisais quelque chose qui te plaisait, ça ne rendait pas le on va dire, la logistique était plus un détail que quelque chose d'important là-dedans. Quoi.
Bah, ce qui me plaisait, c'était aussi le sas de décompression. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris à un peu plus cloisonner les moments où je travaille, les moments où je dois sortir quelque chose et les moments où je dois en fait, m'autoriser à me débrancher, quoi.
Ouais.
Donc, quand t'es dans un train, t'as pas vraiment le choix d'aller faire autre chose ou de... en plus, Internet est vraiment pas terrible. Donc, c'est un bouquin, moi, où je m'endors, ou voilà. Mais c'est vraiment décompression totale, quoi.
Ok.
Voilà.
Et après, quand t'es partie... quand du coup, t'es partie en Australie, comment ça s'est... Enfin, je veux dire, comment tu décides? Tu dis, ok, j'ai fait un peu le tour, j'avais plus envie de rester, j'ai pas envie de rester en Normandie. J'étais allée à Paris, un petit peu. Enfin, et comment tu choisis déjà l'Australie d'abord ?
Alors bon, ça c'est un peu, c'est, j'ai pas fait la monde qui tourne.
Ouais, allez, hop, mets mon doigt.
Ce sera là. Non, parce qu'à l'époque, j'étais en couple avec un Australien.
Ouais.
On habitait en Normandie ensemble et disons que on avait pour projet à un moment donné d'aller en Australie ensemble.
D'accord.
Bon, la relation n'a pas survécu. C'est comme ça. Mais mon envie d'aller en Australie, elle a survécu. Donc je me suis dit, oh, bah, moi je m'en fiche, j'y vais quand même. Quoi. Enfin,
ouais.
Je m'étais mis en tête d'y aller, je vois pas pourquoi ça changerait. Quoi. Mmh. Vraiment, rien à faire. Donc c'est assez simple. Hein. C'était, en fait, c'était pour un PVT, donc un plan vacances-travail, donc un Working Holiday Visa. Ce sont des visas de un an qui peuvent être donnés dans une limite d'âge. Et je crois que c'est jusqu'à 35 ans maintenant.
Ok.
Mais en gros, ça t'autorise à rentrer sur le territoire australien pour travailler ou pour
bouger, faire
ouais, voilà.
Enfin, voilà. Okay.
Et c'est un an. Donc, il y a le même pour le Canada, l'Argentine, enfin, plein de pays comme ça. Donc, déjà, les démarches en soi, elles n'étaient pas ultra compliquées. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où j'ai décidé d'y aller, je pouvais être partie un mois après, quoi.
Okay.
Sauf que j'ai quand même un peu préparé mon coup parce que... comme je voulais pas faire ce projet, on va dire... enfin, je voulais pas faire autre chose que mon travail. Je voulais pas que ce soit une année sabbatique à me dire, bon, bah voilà, j'ai tout fait sauf de l'illu, sauf du motion ou de l'animation ou quoi. Du coup, j'ai vraiment préparé le truc et j'ai payé mon petit visa. Et un jour, je suis partie.
T'es partie.
Et je savais pas trop où j'allais, mais je suis restée à Melbourne pendant un an. Mais voilà quoi, j'ai réussi à trouver une coloc avant de partir, vraiment peut-être 2 semaines avant d'arriver. Et j'ai évité les auberges de jeunesse. Enfin, je voulais vraiment vivre là-bas comme je vis là, en fait.
Ouais.
Donc pas sac à dos, auberge de jeunesse ou quoi. Je me suis dit non, t'y vas. Tu vas démarcher les agences, tu vas bosser. Voilà. Un petit challenge.
Ouais.
Mais j'ai bien aimé.
Et donc, tu as fait quoi comme genre de projet pendant cette année? Tu as plein de choses différentes?
Alors, j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup d'illu et beaucoup de motion aussi. J'ai travaillé avec. On dirait pas comme ça, mais tu sais, en un an, tu fais pas forcément énormément de clients différents. Quoi. Tu fais pas forcément. 15 agences ou quoi. Au final, à partir du moment où tu as, entre guillemets, sécurisé une certaine relation de confiance avec 3 agences, quoi,
oui, après,
ça te fait l'année.
Ça,
quoi,
ça parce tourne, ouais.
Y a une agence avec qui j'aimais beaucoup bosser, qui était spécialisée dans les projets pour les associations à but non lucratif. Voilà. Donc, j'ai fait des animes pour la RSPCA. Donc, c'est la... C'est les animaux.
Ah oui, un peu comme la SPA chez
la nous. La SPA, mais ouais, voilà, okay. C'est la SPA australienne, pardon. J'ai travaillé aussi pour WWF. Enfin, ils sont, okay, sont vraiment spécialisés dans les, enfin, on va dire pour les causes, les bonnes causes, quoi.
D'accord.
Donc, et comme ils étaient contents aussi du style graphique, on proposait plusieurs taf où j'avais quand même pas mal de liberté sur ce que je faisais, ce qui était un peu inédit pour moi. Donc, je suis ouais, trop bien, quoi. Donc, je me suis vraiment, vraiment éclatée, quoi. C'était les projets à l'époque que j'avais eu de ma vie les plus fun, quoi.
Ok.
Voilà. Donc, j'avais apprécié la confiance.
Oui. Et qu'est-ce que tu retiens de cette année là-bas ?
Oula. Un tas de choses. Professionnellement, bah, faut pas baisser les bras parce que, par exemple, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'avais 0 contact.
Oui.
Et que j'avais envoyé beaucoup, beaucoup de CV à beaucoup d'agences et qu'ils ne te répondent pas dans les 2 semaines, quoi. Je crois que le premier retour, je l'ai eu au bout de 3 mois.
Ah oui.
Je mangeais beaucoup de pâtes à ce moment-là parce que je n'avais pas forcément énormément d'argent de côté. Et les loyers sont très, très élevés. Et, donc, il y a eu un petit moment de trouille quand même. Mais je me disais, bon, bah, alors, c'est pas grave, si vraiment j'ai rien, bah, j'irai postuler dans un resto ou des choses comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Mais ça a fini par arriver. Ce que je retiens aussi, c'est que j'ai pas eu trop peur, en fait. Je crois qu'il y a un mélange de cran et d'inconscience aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dont je ne me rendais pas forcément compte, et tant mieux. Faut pas être complètement conscient de tout ce qu'on fait tout le temps, je pense, parce que sinon on s'empêcherait trop,
oui,
de faire les choses, de sauter le pas ou de faire un peu des petites folies comme ça. Donc je le retiens. Donc quand je me pose la question, je fais, oh là là, non, ça y est, là il y a la partie chiante Marie qui m'empêche de faire quelque chose, donc je vais passer outre. Voilà.
Oui, en fait, ouais, finalement d'y aller et puis de un peu de dépasser.
Voilà. Bon, après, j'ai fait des erreurs, hein. Ouh là là. Je regrette pas, quoi. Je regrette pas du tout.
Ouais, mais c'est cool. Du coup, ouais, je trouve de partir, c'est même de... On se met un petit peu en risque aussi, comme ça, en arrivant. Enfin, tu connais personne, tu...
Ça m'a forcé, à un moment donné, d'aller vers les autres, de faire des choses que finalement j'étais pas forcément entraînée à faire en étant dans mon propre pays, quoi. Parce que quand on est dans son pays, on se dit que bon, il y a des choses en fait qu'on fait machinalement, on se rend pas compte que ça peut être compliqué quand on n'est pas
dans son pays,
quand on n'est pas dans son pays, quand on est étranger ou quand on n'a pas forcément les mêmes droits ou voilà, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ok.
Bon. Après, ça va, c'était l'Australie j'étais pas non plus dans un risque total, quoi. Enfin, parce qu'on va pas se mentir, au moindre gros coup dur, j'étais pas seule au monde non plus, on aurait trouvé une solution, quoi. Mais quand même, je me dis, je me suis quand même un peu dépassée, donc j'étais contente. Voilà.
Ça, c'est cool. et donc, quand tu reviens en France ou tu arrives au nouveau lieu, comment tu trouves le nouveau lieu ? Enfin, comment t'arrives dans cet endroit ?
C'est vrai que faut le trouver.
Ouais.
C'est vraiment le bouche à oreille. Parce que quand je suis arrivée à Lille, il y a un artiste, Léo Galamé, en fait, qui connaissait mon travail parce qu'on avait... on s'était rencontrés quand j'avais fait une exposition solo à Tournai, il y a un moment, parce que je sortais un livre en sérigraphie et j'avais fait des... Donc cette expo, elle date de, je crois, 2015.
Oui.
Et depuis, il suivait mon travail. Et quand il a su que j'arrivais à Lille, il fait « Ah, oh, bah attends, j'ai un atelier galerie, vas-y, on expose ensemble. » Bah moi, je... allez, allons-y.
Allez, c'est bon.
Donc, voilà. Et puis, à ce moment-là, je lui parle du fait que je cherchais un atelier. Parce que c'est aussi en Australie que je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout travailler enfermée dans une petite pièce. Et j'ai quand même pas mal de bazar. Donc, lui-même avait un atelier aux ateliers du 16, qui sont juste à côté du nouveau lieu. Donc, il libérait son espace, mais ça ne me connaît pas. Mais il fait, mais attends, mais je connais Claire. Donc, Claire, chien fou,
ouais.
qui était déjà au nouveau lieu à ce moment-là. Et un jour, on a juste toqué à la porte, quoi. Je crois qu'il lui a envoyé un message. Il lui a fait, ouais, on est dehors. Est-ce que tu veux bien nous ouvrir, quoi.
D'accord.
Et donc, je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi, hein, on va dire. Et c'est vrai qu'il y avait aussi une question de timing. Vu que tout se fait en bouche à oreille, il se trouvait qu'au même moment, Angèle du nouveau lieu, donc... chercher une coloc d'atelier et j'étais là. Donc voilà.
Timing parfait.
Et patatras. Voilà, là au nouveau lieu. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, quoi.
Ok.
Presque envie de dire à ce moment-là que je me sentais presque coupable d'avoir eu autant de chance.
De chance.
Je fais waouh. Là c'était
un alignement de planètes.
Ah, complètement. Waouh.
Et donc tu commences. Enfin. Moi, en fait, j'aime vraiment beaucoup en fait ce que tu crées, tes dessins. C'est un univers qui me parle, énormément. Est-ce que par quoi t'as commencé ? Enfin, c'est quoi les premières choses que t'as commencé à vendre ? Comment ça a marché pour toi ?
On va dire les toutes premières choses que je dessinais, c'était pas forcément très formel. Enfin, il y avait beaucoup de cartes,
ouais.
De choses un peu. Je dirais pas gribouillé, mais c'était ouais, de la topographie, des crayons de couleur, des choses très petites. Je partais dans des nœuds vraiment d'imagination et bah, un petit peu comme ce qu'on peut voir dans certains dessins, ci et là, dans l'atelier. Mmh. Et ensuite, au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place et aussi découverte de plusieurs techniques. Et je crois que le moment où les gens ont commencé à s'intéresser à ce que je fais, c'est quand je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire. Quand j'essayais pas, on va dire, comme quand j'ai commencé mes études d'art, on voit des styles très forts, très marqués, on se dit, waouh, c'est trop bien et tout. Et puis, parfois, inconsciemment, on essaie de faire un peu pareil, de se dire, ah, bah, parce que lui, ce qu'il fait, c'est bien, donc si je veux faire quelque chose de bien et tout. Et en fait, c'est très, très immature comme façon de voir les choses. Et parfois, c'est juste du mimétisme, quoi. Et le moment où j'ai juste sorti ce que j'avais dans la tête et que je l'ai fait sans contrainte, c'est là que ça a pris, quoi, on va dire. Mmh. Donc là, j'essaie plus trop de rentrer dans des choses que je peux m'imposer, quoi. Après, au fur et à mesure, je découvre de nouvelles techniques. Donc il y a eu la sérigraphie aussi. J'ai commencé à expérimenter des choses. Bon, après, j'ai pas découvert les chats. Les chats, j'en ai partout, j'adore ça.
C'est vrai.
Les panthères.
Les félins.
Voilà. Après, je me suis mise aussi au numérique. Donc, je fais aussi beaucoup de numérique. Là, c'est pareil, beaucoup d'expérimentation et tout. Et c'est en fonction de l'outil, je vais avoir des choses qui vont être plus ou moins ressemblantes, mais ça va rester quand même très cohérent avec ce que j'ai en tête, quoi.
D'accord.
Donc c'est beaucoup de paysages, beaucoup de petits personnages. J'aime bien mettre des petites blagues aussi que tout le monde ne va pas forcément voir, mais moi ça me fait rire, donc je suis là, bon, allez, voilà, c'est pas grave, je rigolerai toute seule. Mais...
voilà. Moi j'aime bien certains titres. J'adore le palais des nazes. Enfin, bon, après ça, tu vois, c'est vraiment le truc.
C'est ouais, le château de la reine des nazes.
Ouais, voilà,
mais c'est vraiment, parfois, je fais, bon, je sais pas, je vais l'appeler comment. Et je fais, bah, ça ressemble un peu à ça quand même. Et ça donne une piste de lecture. Après, parfois, on me pose vraiment trop de questions sur, mais ça représente quoi ?
Écoute.
Bah, ça représente, je sais pas, est-ce que je suis obligée de vraiment tout décortiquer comme ça, quoi. Enfin, parfois, on a juste une image en tête et il faut que ça sorte, quoi.
Oui, oui.
C'est obsédant et tant qu'elle n'est pas posée sur le papier, elle restera, elle va me hanter, quoi. Donc, je fais non, faut que je la sorte, quoi. Mm. Après, pourquoi je fais les choses d'une certaine façon ? Pourquoi j'ai aussi des couleurs préférées ? Bon, bah... c'est des choses aussi que je vais recracher de d'autres fictions, de livres que je vais avoir lus et qui ont eu le temps d'être un peu digérés, qui vont ressortir du... Enfin, ça va être interprété d'une autre manière, mais voilà, quoi. C'est vraiment juste, j'y vais un peu sans filtre, quoi.
Ouais. Et le fait d'être dans un endroit comme le nouveau lieu, qu'est-ce que ça t'a apporté à la fois toi dans ta démarche artistique et aussi peut-être dans les rencontres que tu as pu faire?
Bah, ça a été vraiment le début de confronter un peu plus son travail au monde extérieur, quoi. Parce D'accord. que quand on est un peu dans son coin ou dans son appart, j'avais un côté très renfermé sur moi-même, quoi. Donc c'était soit j'étais à l'étage de la boulangerie, mais je voyais pas les gens. Ou vraiment, quand j'habitais en Normandie aussi, j'avais mon atelier, mais il n'y a jamais personne qui rentrait, quoi.
Ouais.
C'était un petit peu... J'avais un côté très protection de mon espace, quoi.
Okay.
Sauf que, arrivé au nouveau lieu, y a des événements, il y a des portes ouvertes, il y a des gens qui rentrent dans ton atelier. Et ça, il faut savoir que c'était quelque chose, j'étais carrément allergique au début. C'était très, très compliqué pour moi, parce que je suis très, très... j'étais extrêmement territoriale, je crois. C'est pour ça qu'en clair, tatoué, il y avait des personnes qui rentraient pour se faire tatouer. Et moi, j'étais là, j'ose pas travailler devant des gens qui me regardent. Enfin, donc, une fois de plus, ça m'a un peu forcée à dépasser ces choses-là, quoi. Au final, oui, bien sûr, tu peux travailler. T'es pas obligé d'avoir un public en permanence. Mais en fait, ce que je fais, c'est pas que pour moi, quoi. Donc, si je fais des images, mais que je veux pas les montrer...
Oui, quoi, ça sert.
Il y a comme qui dirait un petit problème. Enfin, voilà. Mais. Ouais, puis c'est aussi le collectif, quoi. C'est de composer un peu avec plusieurs personnes, plusieurs. Il y a des univers aussi, juste des vies différentes. Et. C'est vrai que c'est assez. C'est assez particulier, quoi. Mais. Comment je peux phraser ça? Moi, franchement, ça m'a donné encore plus envie d'être dans du collectif.
D'accord.
Voilà. Maintenant, ce serait inconcevable pour moi de retourner me cacher dans un atelier fermé du reste du monde, quoi.
Oui, mais c'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement. Ouais, d'être chez toi. Non, maintenant, finalement, c'est ici, là, aux ateliers Jouret, où tu te sens bien et où tu peux... créer en étant aussi au contact d'autres, en fait, de façon générale.
C'est ça, c'est un peu aussi de se dire « Waouh, je vais voir mes collègues aujourd'hui », alors qu'on n'est pas, on travaille pas pour la même chose et on n'est pas soumis sous les règles, aux règles du même entreprise, quoi. Mais on a un peu un but commun. Parce que quand on vient dans un lieu comme celui-ci, mais que ce soit Jouret ou le nouveau lieu, on vient pas louer que des mètres carrés. On vient aussi, on intègre un collectif.
Ouais.
Dans ce cas-là, y a les moments, on va dire, off, où finalement on donne de son temps pour le collectif, quoi. Il ne faut pas forcément attendre à être rémunéré ou quoi que ce soit, mais ça apporte tellement de choses humainement que ça vaut ce temps-là. Donc, je veux dire, c'est à partir du moment où j'ai confronté un peu plus mon travail au monde extérieur et à d'autres artistes ou quoi, il y a aussi... des échanges de procédés, des échanges de techniques, enfin, c'est très nourrissant, quoi.
Ouais.
Donc, je sais que les places dans des lieux comme ça sont très recherchées, quoi. Ce que je peux comprendre, parce qu'on s'y sent vraiment, vraiment bien, quoi.
Et toi, tu te rappelles la première fois que tu as exposé?
Ah ouais, ouais, oula. C'était cette exposition au... un lieu qui n'existe plus, d'ailleurs. C'est s'appelait le 38 Quai Notre-Dame, c'était à Tournai. C'était une exposition solo. J'avais appelé cette expo « Satellite », parce que je dessinais... c'était des espèces de cartes de monde un peu isolé, un peu flottant, ou hors du temps. Et j'ai appelé ça « Satellite », parce que quand j'étais petite, je faisais des espèces de dessins un peu similaires, mais... il y a eu quand même une évolution depuis, hein, merci. Et c'est ma mère qui appelait ça des satellites. « Ah, ma chérie, t'as encore fait un satellite !» Et puis elle le mettait sur la pile, voilà. Et ça m'a vraiment rappelé ça, quoi. Je sais, parce que c'était... le point commun avec ces dessins de quand j'étais gamine, c'est vraiment le fait que je faisais de l'écriture automatique, quoi.
Ouais.
Je sortais, je réfléchissais pas trop mon dessin en amont, quoi. Et j'avais, le 38 quai Notre-Dame, donc c'était un lieu culturel qui faisait aussi atelier de sérigraphie. Et j'avais fait tout un livre sérigraphié, bon aussi imprimé par toutes les personnes qui travaillaient au 38. Et ça existe encore un petit peu, on va dire, via les ateliers des 3-8, enfin les éditions des 3-8, qui maintenant, ça a été repris par Pierre Bolide, qui est un artiste basé à Lille également. Mmh. Il a son atelier de sérigraphie est basé à Tournai, mais c'est plus du tout au 38 quai Notre-Dame. Enfin, pareil, le lieu, on va dire, a évolué vers autre chose, quoi. Mais ouais, toute première exposition sur l'eau, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un peu pétrifiée, quoi. Parce que les gens venaient me poser beaucoup trop de questions. En même temps, c'est un peu le but, mais...
T'avais été surprise, du coup, de ça? Tu t'y attendais pas?
Bah ouais, il y a eu un truc un peu waouh. Moi, dans ma tête, je faisais mes trucs que je trouvais rigolos. Moi, ça me faisait du bien de dessiner ça, évidemment. Mmh. Mais ce qui était assez fou, c'est de voir que les gens voyaient aussi des choses assez folles dedans. Enfin, ils se perdaient dedans, comme moi, je me perdais dedans. Et je fais waouh, en fait, j'arrive à faire ça. Et c'est vrai que j'ai jamais été très forte en, en échange dans ces moments-là, parce que parfois, les questions sont trop précises et, ouais. Et c'est quand les questions deviennent trop précises que je me dis, je sais pas. Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi, vous? Allez-y. Enfin, c'est tout.
Oui. Et donc, après cette première expo, c'est des choses que tu as refait régulièrement? Est-ce que tu en as fait aussi dans le cadre du nouveau lieu? Enfin, comment ça s'est passé?
Alors, les expos, l'air de rien, j'en ai pas fait tant que ça. C'était beaucoup d'expos collectives après ça. Ou alors, c'était voilà, dans le cadre d'événements organisés par le lieu. Après, nouveau lieu, malheureusement, la majeure partie où j'y étais, il y a eu le Covid. Donc, de toute façon, c'était un peu râpé, quoi. Chose, ouais. Mais là, du coup, j'aurais... Il y a quand même des événements tous les deux mois. Donc, et là, il y a un aspect nouveau pour moi, c'est waouh, en fait, les gens qui viennent à un moment donné, ils peuvent revenir dans deux mois, et si j'ai pas de nouveaux trucs à leur montrer, je me mets une espèce de pression comme ça, de production.
Oui.
Je me dis, c'est peut-être pas le bon plan. mais d'une certaine façon, je trouve ça assez marrant. Je me dis, ah bah, comme ça, c'est vrai que c'est un nouveau challenge aussi de se dire, bah voilà, d'avoir des nouvelles choses à montrer, de faire une nouvelle scène dans mon atelier, enfin. C'est de jouer avec tous les objets parce que c'est un atelier slash lieu cosy. Voilà, il y a quand même pas mal de rôles. Ensuite, d'autres expositions. Il y en a une actuellement qui est à Paris, dans la librairie L'Instant, qui est dans le 15e. Donc c'est jusqu'au 31 décembre. J'ai participé au Salon des Beaux-Arts aussi plusieurs années d'affilée. Enfin, c'est pas, je me suis pas vraiment mis en chasse de beaucoup, beaucoup d'expositions. Quoi. C'est, je produis beaucoup dans mon coin et quand je peux le montrer, je le montre et puis voilà. Quoi.
Ouais. Après, sinon, tu vends en direct sur ton site internet. C'est ça?
Ouais, voilà. Oui, j'ai arrêté les intermédiaires de vente en ligne parce que j'aime bien avoir la maîtrise de mes ventes. Et en plus de ça, j'aime bien qu'on vienne m'acheter mon travail parce qu'on aime mon travail et pas parce qu'on cherche de la déco qui matche le canapé, quoi. Voilà.
Oui, parce qu'il y a un peu plus de profondeur dans ce que tu fais. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Enfin, je sais qu'il y a certains de tes dessins qui, moi, m'ont touchée. Enfin, c'est la quête, ouais, il me semble.
Elle n'est pas là-bas.
Si. Ouais. Voilà. Par exemple ça.
Ouais,
après donc c'est pas un élément qui peut rentrer dans la décoration dans l'intérieur.
Oui, évidemment.
Évidemment. Mais on peut y voir quelque chose de plus profond.
Voilà, c'est toujours il y a une petite histoire, il y a aussi de la symbolique. C'est des choses qui peuvent appeler à quelque chose d'assez intime en soi. Donc, c'est vrai que je préfère qu'on connaisse mon travail parce qu'on a fait connaissance avec mon travail en général, quoi. Enfin, qu'on veuille m'acheter quelque chose parce qu'on a fait connaissance avec mon travail en général.
Oui.
Donc, voilà.
Mais du coup, c'est vrai que c'est un bon vecteur. Et puis, avec Instagram aussi, après, on pense de ce qu'on veut, hein, des réseaux sociaux et tout. Néanmoins, c'est quand même un chouette outil de visibilité. et de partage de ton travail.
C'est ultra pratique, Instagram. Après, je poste pas tous les deux jours. Je sais qu'à un moment, j'ai des motivations, voilà. Mais non, les réseaux sociaux, c'est presque... comment dire, c'est presque primordial aujourd'hui, quoi. Enfin, j'irai pas faire un rejet. L'air de rien, Instagram, ça m'a apporté plein de choses. Et moi aussi, je découvre plein de choses grâce à Instagram, quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc, c'est réciproque. Après, tout basé sur Instagram, non. Tout basé sur les réseaux sociaux, je pense pas que ce soit... que ce soit la meilleure solution. Mais après, c'est pareil, chacun trouve les outils qui lui correspondent le mieux. Et honnêtement... les deux se complètent, que ce soit les rencontres physiques, donc les événements physiques comme on peut en avoir, mais tout le monde ne peut pas forcément se déplacer pour venir te voir. Donc, les réseaux sociaux, c'est très bien. Hein. Je suis pour. Voilà. Seul truc que je n'ai pas encore fait, c'est TikTok. Mais mon téléphone ne veut pas l'installer, je ne sais pas pourquoi. Bon.
Bref. Une énigme.
Ouais, voilà, une de plus.
Et... comment ça se passe quand tu fais un nouveau dessin? Enfin, en fait, tu sais, ton processus créatif de comment ça... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu... tu vois, une forme de rituel? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu répétitif? Ou est-ce que chaque fois, finalement, c'est un peu différent?
Alors, ça va dépendre un peu de l'outil que j'utilise. Alors, c'est sûr que quand c'est numérique, il y a moins de choses à sortir. Hein. Mais sinon, je choisis toujours le format. Je mets... j'installe, on va dire, mon plan de travail. J'aime bien que ce soit quand même assez, assez ordonné, parce que je peux être vite maladroite. Enfin, voilà, la bouteille confondue avec le pot à eau, ce genre de choses. Mmh. Mais je pars souvent d'une idée un peu obsédante. Des moments, je vais faire des cabanes isolées. Par moments, je vais retourner sur des cartes. Et en fonction de l'image que je vais avoir et aussi du format que je vais avoir, parce que en ce moment, je pars dans le grand format.
Oui.
Donc, c'est aussi tout un. Enfin, moi, ce que j'appelle grand format, pour moi, c'est très grand. Pour d'autres, ça va être moyen, moyen grand. Mais, j'utilise beaucoup de gouache, j'utilise de l'encre et j'ai chaque chose que je vais sortir. Là, elle marche, la sonnette.
Ah ouais, on a bien entendu la sonnette. C'était un petit intermède offert par la sonnette des ateliers Jouret.
Oui, voilà, c'est ça. Oh là là, ouais, bon, bah, tu vois, elle fonctionne plutôt bien.
Bah oui, là, pas de doute.
Là, c'est bon. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que de l'extérieur, tu l'entends vraiment pas. Donc parfois les gens ne savent pas, mais ils vont appuyer vachement longtemps et vachement et
alors et tout le monde
est en train
entendu.
De devenir sourd à l'intérieur. Waouh, oh les gars, quand même. Mais ouais, le rituel, bah comme tu peux voir là, j'ai vraiment tout. Et puis alors, il y a pas forcément une grosse logique, mais je sais où se trouve chaque chose. Là, ma table est recouverte et j'ai utilisé table à roulettes pour pouvoir avoir des choses beaucoup plus amovibles et voilà quoi. Et ensuite, je fais rarement un dessin en plusieurs jours. Ça va être souvent one shot, quoi.
Ok.
Parce que j'ai un peu un problème de laisser les choses en plan. J'ai beaucoup de mal à revenir dessus.
Donc en fait, il faut que ça soit, tu débutes.
Ah ouais, voilà, c'est là, je travaille comme ça, c'est vraiment. Ça m'obsède, il faut que ce soit maintenant. Voilà.
D'accord.
C'est vraiment comme ça.
Et tes inspirations, c'est quoi dans ce que tu dessines? Ou ce que tu peins?
Bah, en fait, honnêtement, je sais pas s'il y a vraiment inspiration d'autres artistes, enfin comme ça, nommément, mais c'est plus beaucoup de temps d'observation. Je prends beaucoup de photos aussi d'éléments. Je me dis, tiens, j'ai jamais fait les feuilles comme ça. Ou,
ouais, en fait, un peu sur ce que tu vois.
Ce que je vois ou de choses que j'ai vues, mais que je me rappelle pas forcément, quoi. Comment dire, je fixe beaucoup les paysages, je fixe beaucoup les détails, je peux partir marcher des heures et puis juste vraiment vraiment observer les choses, quoi. Je fais pas forcément du dessin d'observation, parce que ça fait pas partie de mon processus du tout. Ouais, je prends des photos et puis ensuite j'essaie de voir quand je commence quelque chose, je fais, bon alors ça, est-ce que graphiquement ça marche, ou tiens, comment réagit ce crayon sur la gouache, sur ce papier en particulier? Après, ça va plus être de l'expérimentation vraiment
physique.
Ouais, physique et plastique, quoi.
Ouais.
Mais Ah, les inspirations.
Non, mais après, ça peut être. C'est ça, tu vois, d'aller dans la nature et de regarder, de s'inspirer. Puis après, derrière, ça fait germer quelque chose chez toi.
Vraiment, ouais. C'est très paysage, quoi. Très, très paysage.
Ouais.
Vraiment. Après, ce qui est assez marrant, entre guillemets, c'est souvent des paysages qui sont pas sous mes yeux, quoi. Quand je suis pas dans un. Quand j'étais en Australie, je faisais beaucoup de paysages qui ressemblaient à la Normandie. Et maintenant que je suis là, je fais beaucoup de jungle. Enfin, je suis jamais contente là où je suis.
C'est ton esprit qui s'est fixé un peu ailleurs, peut-être.
Ouais, voilà, je sors un peu de la métropole lilloise. Voilà, dans ces moments-là. Mais les inspi, c'est beaucoup de. Et puis parfois aussi la forme d'un pinceau va me faire penser à tel objet et je me dis waouh, ça graphiquement il y a un truc, donc je tire le fil, quoi.
Ouais.
Donc c'est puisque j'aime pas représenter les choses de manière hyper réaliste, bon, je crois que ça se voit, mais d'essayer de voir comment je peux suggérer les choses ou réinventer certaines formes en fonction de l'outil que j'utilise, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et puis qu'après, finalement, y a pas vraiment de limite.
Oh bah non. Ça, c'est pour ça, c'est super. On s'ennuie jamais. Mais vraiment. Puis, par moment, c'est de se dire, bah tiens, ça, de partir sur du trait beaucoup plus droit, d'aller dans de la découpe, presque, enfin, parfois d'assembler aussi, faire des tâches d'encre de Chine et ensuite se dire, bon, bah voilà, j'ai un départ, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je vais habiller ma tâche, on va dire. Ou alors je vais scanner, puis essayer d'assembler ça autrement. Ouais. C'est vraiment des idées qui viennent ou de sur le moment, et puis aussi des joyeux accidents, quoi. Voilà.
Ok. Et moi, en fait, ce que j'aime beaucoup, dans ce que tu fais souvent, c'est le ciel. Je trouve que c'est... Il y a toujours quelques... Enfin, il est jamais exact... C'est jamais le même. Il y a toujours des couleurs ou une profondeur aussi.
C'est ça, en fait, le ciel bleu. il se passe un tas de trucs dans le ciel tout le temps, quoi. C'est en fonction de où on se trouve géographiquement, le ciel, il va jamais être pareil. Les nuages aussi vont être vachement différents en fonction d'une région du monde à une autre. Et puis, on peut retranscrire une ambiance tellement différente en mettant même une couleur complètement irréelle au ciel, quoi. Mais insister sur le sentiment qu'on a à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Donc, par exemple, c'est sûr que quand j'arrive ici, là, le ciel est vachement bas, quoi. C'est vrai que quand on est dans un ciel couvert comme aujourd'hui, on a cette espèce de drap gris qui a l'air d'être vraiment, vraiment proche de nous, quoi. Alors que quand on va... l'Australie, enfin les nuages, je rigole pas, les nuages sont vraiment pas pareils. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus impressionnants. Et j'avais eu ce même sentiment quand j'étais aux États-Unis, en Arizona, il y avait aussi des ciels qui étaient complètement fous. Et je me dis, je regarde le même ciel en fait d'un endroit à l'autre, mais j'ai jamais la même chose, quoi. Donc, et c'est vrai que dans une image, le ciel, il amène beaucoup de choses, quoi.
Ouais, tout à fait.
Quand on regarde beaucoup de films, comment un directeur de la photo va décider de faire son point de vue et comment il va vouloir intégrer certains nuages alors que c'est de l'accident, tu vois. Enfin, ça va appuyer quelque chose de dramatique ou au contraire quelque chose de joyeux. Enfin, il se passe énormément de choses dans le ciel, voilà.
Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est un peu un lieu où il y a plein de choses possibles, en fait.
Exactement, ouais.
Et est-ce que tu te rappelles du premier dessin que tu as vendu?
Oh là! Attends, je sais pas, parce que... Est-ce qu'on compte le moment où ma mère a fait pression à quelqu'un pour...
Non, on va dire quelqu'un qui avait son libre arbitre. Donc ta mère a vendu tes dessins, d'accord.
Désolée, maman. Merci quand même, mais voilà. Waouh, je sais plus. Quand est-ce que j'ai vendu un premier dessin En tout cas, que je me souviens, en 2015, avec cette expo au 38, oui, j'ai vendu des barbacoas, c'est le bouquin. Il y a le Panther Party, là.
Ouais.
Et à droite, c'est barbacoa, à droite du Panther Party. Oui. Donc ça, c'est ça, j'en ai vendu, ouais. Et je crois que c'est le dernier exemplaire, celui-là, il n'y en a plus du tout. On en avait fait quand même pas mal. Mais sinon, premier dessin que j'ai vendu, mais vraiment, il n'y a pas, avant. J'arrive pas, j'ai vraiment aucun souvenir d'un premier truc que j'ai pu vendre. Ou quand j'étais étudiante. Quand j'étais étudiante, est-ce que j'ai vendu un truc quand j'étais étudiante? Ouais, non. Je crois que... Non, franchement, je me rappelle. Je crois que c'est vraiment à partir de cette expo-là que j'ai vendu des choses et que j'ai pas... Enfin, c'est trop bizarre parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment... Ah, c'est le premier truc que je vends. C'est vrai que j'aurais pu marquer ce jour-là d'une, je sais pas, d'une croix blanche en me disant... Mais non, parce que, en fait, par contre, le moment où j'ai commencé à me faire des sous par rapport à mon activité, quoi, créative, bah, ça... C'est à peu près à cette période-là aussi, quoi.
Oui.
Donc, c'est plus ça. Ma première facture, je m'en rappelle. Mais c'est un peu plus terre à terre. Mais,
non, mais c'est voilà. Important aussi.
C'était quelque chose. C'était pour un flyer. voilà.
Et qu'est-ce que ça fait, justement? Tu vois, quand tu commences à gagner de l'argent pour ce que tu fais, est-ce que viscéralement, tu voulais faire?
Bah. Waouh! En fait, je crois que c'était pas non plus. J'avais pas non plus cette impression d'accomplir un rêve ou quelque chose comme ça. Parce que pour moi, c'est plus le moment où t'arriveras à en vivre. Ouais, parce que le début, c'était pas drôle, quoi. Il y a eu quand même 2-3 ans où c'était pas trop ça. Mais après, c'est plus il y a pas longtemps, je me suis fait cette réflexion-là. Et là, c'était vraiment cool. C'est que j'ai regardé tous les ans et je me dis, en fait, j'ai toujours fait plus que l'année d'avant. Et je sais, c'est bien, ça. Et je me dis, bon, bah voilà. Et ça, ça, c'était très, très satisfaisant pour moi, quoi. J'étais vraiment très contente. Voilà.
Bah oui, tu m'étonnes.
Juste de se dire, voilà, on recule pas et j'ai jamais abandonné non, vraiment chouette.
Mm. Et en fait, toi, tu travailles avec qui? Enfin, qu'est-ce qui vient te chercher
Alors,
dans tes créations de façon générale?
Bah, je travaille beaucoup avec des agences de communication, des studios de création, des studios de production. Ça va dépendre aussi du travail demandé, mais sinon, là, tout ce que tu vois, ça, c'est vraiment juste l'aspect artistique. C'est-à-dire que là, tout ce qui est accroché dans cet atelier, c'est juste Marie, artiste, je fais des choses, vous me l'achetez pas, mais je le fais pour... Enfin,
pour toi.
Moi, c'est ma démarche artistique qui parle. Sinon, tout ce qui est design graphique, illustration, emotion, c'est beaucoup d'agences. Mmh. Donc, il y a des agences lilloises, il y a des agences parisiennes. J'avais encore mes clients australiens qui continuent à venir me demander des choses. Donc, c'est assez varié, quoi. Et là, en ce moment, je travaille beaucoup avec une entreprise qui développe des logiciels CAD. Donc, pour les ingénieurs, les architectes, voilà. Et donc, je leur fais les visuels pour les campagnes marketing, tout ça, quoi. Bah, c'est encore un autre monde, mais c'est ça qui est marrant, c'est de pas forcément travailler avec des business qui ont une portée artistique ou quelque chose comme ça. C'est vraiment d'entrer dans des mondes différents, quoi.
Mmh.
Et c'est ça, quoi. Il y a un petit côté Mary Poppins, j'aime bien. C'est vrai.
Tu débarques, hop.
Salut. Non, mais oui, bon, après, je vais pas dire que je règle les problèmes, leurs problèmes dans leur vie ou quoi, c'est pas ça non plus. Mais le côté un peu, bon, bah voilà, et puis dès que ma mission est terminée, c'est bon, bah c'était cool, salut. Voilà. Voilà.
Et comment, en fait, tu t'es fait connaître ici? Comment t'as fait le fait que t'aies eu l'expérience, peut-être en... Est-ce que le fait que t'aies dû un peu aller taper aux portes en Australie, ça t'a aidé après pour ici?
Ah bah, c'est sûr, maintenant je fais les choses un peu plus naturellement qu'avant, quoi. Maintenant, j'ai aucun problème à contacter les gens et faire oui, vous avez pas une place en atelier. Mais en fait, ça a l'air très très bête comme ça, mais c'est quelque chose que j'étais incapable de faire il y a quelques années, quoi. Je me suis dit, mais Marie, mais arrête là, le culot. Et là, en fait, je me dis, bah oui, le culot, vas-y, quoi, en fait. Si tu dis pas que t'existes, personne saura que t'existes, en fait. Ouais. Donc, ouais, bah là, ça a été très simple. J'ai pas frappé à la porte directement, mais t'envoies un mail, tu dis voilà, je fais ça. Est-ce que vous avez une place et voilà quoi. C'est vraiment j'ai un peu plus osé quoi. Et ouais. Franchement, qu'est-ce que je risquais quoi. Au final, c'est à chaque fois que je commence à avoir des peurs un peu
irrationnel
comme ça, voilà. Ouais. C'est, je me dis, mais tu risques quoi en fait au final. Enfin, qu'est-ce qui va t'arriver. Bah là, bah qu'est-ce qui m'est arrivé. Bah j'ai eu un atelier, voilà. Ouais. Terrible. Voilà.
Ok. Le fait de travailler comme ça en atelier, que ce soit ici ou comme c'était le cas au nouveau lieu, toi, qu'est-ce que ça a pu t'apporter dans ta créativité?
Bah déjà, il y a de l'émulation, tout simplement. Mmh. C'est quand tu as autour de toi une énergie de gens qui travaillent, qui créent, qui voilà, bah ça te booste aussi.
Ouais.
Là, le fameux truc où on peut sentir la température dans une pièce, et je parle pas de vraiment de degrés, hein, je parle de l'ambiance. T'as, quand tu arrives quelque part où les gens sont fatigués ou quoi que ce soit, tu le ressens aussi. On est un peu des piles à ce niveau-là, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on est quelque part avec des gens qui créent, qui travaillent, qui ont cette énergie, bah, ça te donne cette énergie aussi. Tu la partages, quoi. Mmh. Donc, c'est sûr que... Et c'est aussi pour ça que je préfère être là que d'être toute seule chez moi, parce que si j'ai un coup de mou, bah je fais autre chose, quoi.
Ouais.
Alors que là, je me dis, ouais, non, en fait, puis ça donne un tas d'idées. Puis comme les gens aussi partagent, entre guillemets, il y a aussi des partages de bons plans, quoi. Et puis quand je cherche un imprimeur, mais mettons, hein, parce que l'air de rien, moi aussi, j'avais besoin d'un imprimeur. Au début, j'en trouvais pas. Et puis maintenant, je suis arrivée là, j'ai fait, vous connaissez pas un imprimeur à Roubaix. Et puis j'ai eu 3-4 contacts, et puis bam, quoi. C'est du réseautage, quoi, aussi.
Ouais.
Voilà.
Oui, et puis c'est important aussi peut-être quand on crée, parce que finalement, ton travail de création, il est assez solitaire, mais au final, d'être entouré de plein de monde, ça permet aussi d'avoir des échanges.
Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un bon juste milieu, quoi. Bah, c'est l'idée d'avoir quand même des cloisons dans ces ateliers, mais que tout n'est pas complètement fermé, tu vois, on n'est pas dans des box complètement fermées. Donc c'est un petit peu ce truc-là où j'ai besoin quand même d'un lieu de travail, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me concentrer, de faire ce que j'ai à faire, mais en même temps... Bah, y a quand même cette ouverture pour que je puisse aller vers l'autre si j'ai besoin, quoi.
Ouais.
Ou qu'on vienne me voir aussi, parce que je mords pas. Enfin, je pense pas.
Et Gaston, quand tu exposes, par exemple, c'est quoi, tu vois, peut-être des retours qui t'ont un peu marqué ou des choses qu'on t'a dites est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit des choses qui t'ont peut-être touché plus particulièrement?
Là, il y a vraiment un truc qui m'a énormément touchée. Alors, c'était pas après une exposition. C'est suite à une parution dans La Voix du Nord.
Oui.
Parce que j'ai été contactée par un journaliste qui faisait un dossier spécial sur des illustrateurs à Roubaix.
Ouais.
Donc, il m'a appelé et donc il a fait un petit article sur moi et puis d'autres illustrateurs également. Et il fallait qu'on fasse une illustration inspirée d'un lieu de Roubaix, quoi. Et moi, c'est vrai que le canal de Roubaix, c'est un des trucs que je préfère. Enfin, un des lieux que je préfère. Désolée pour le mot truc. Et suite à la parution, j'ai reçu une carte, ici, de la part d'un monsieur qui m'expliquait, en fait, que son papa, à l'époque, était ami avec un artiste qui était spécialisé... qui avait énormément dessiné le canal de Roubaix et juste qui me disait que que l'article en question lui avait rappelé tout ça, et il m'a envoyé aussi un exemplaire d'une carte postale de collection, quoi.
Ah ouais.
Avec dessiné par cet artiste, et moi j'étais là, mais je suis waouh. Mais c'est trop précieux, faut pas m'envoyer ça, mais ouais, ça m'a vraiment chamboulé, quoi.
Ouais,
parce que je fais, c'est déjà, c'est hyper gentil, et puis je me dis on se rend pas compte ce qu'on peut provoquer chez les autres, en fait, comme ça. Donc ouais, et c'est là que je me dis c'est pour ça que je fais ça, donc c'est, faut continuer.
Ouais, c'est pour ces émotions là en fait, finalement.
Exactement, ouais. Non, c'était fou. D'ailleurs, je me rends compte que je lui ai toujours pas répondu. Il va peut-être falloir que je le fasse. Mais ça, c'est le côté où j'ai toujours 3 trains de retard sur mon planning. Mais bon, voilà. Bon, après.
Quand tu vois ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu as des idées sur là où tu as envie d'aller? Des choses que tu as envie d'explorer?
Oula, oui. Ah, il y a un tas de... non, mais vraiment un tas d'idées. Là, j'ai envie de revenir un peu au fanzine, enfin de refaire de la micro-édition, parce que ça, c'est le format livre. C'est quelque chose que j'ai pas... j'ai un peu lâché ces quelques dernières années.
Ouais.
Et là, comme ça fait longtemps que que j'étais pas arrivée quelque part avec l'intention d'y rester plus d'un an ou deux, ouais. Je me dis, en fait, je peux vraiment installer quelque chose, quoi.
Oui, tu peux investir le lieu.
Exactement, quoi. Sinon, d'un point de vue juste pictural, d'aller vers des plus grands formats encore. Je pense que là, je deviens... je suis en train de me dire, mais fais du grand. Investis le truc, vas-y. Parce que je pense qu'il y a encore une certaine timidité au niveau des formats. Et puis d'aller... et pourquoi pas tenter de la toile aussi. Enfin, c'est un tas de choses que...
Ouais. Qui t'appellent.
Ouais, complètement. Puis... les sujets, au final, je sais pas si je vais beaucoup changer de sujet. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, les oiseaux, c'est la petite obsession, quoi. Mais ouais, j'ai 2-3 croquis, là, et je me dis... Oula, j'ai quelques idées, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais.
Tu vois des choses qui se dégagent un petit peu.
Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et ouais, et puis de faire j'ai une idée sur de la micro-édition, mais voilà, je vais... là, pour l'instant, c'est surtout... comment dire, j'ai un peu posé les bases du truc. Maintenant, faut voir comment je peux réaliser et quelles peuvent être les limitations, tout ça, quoi.
Ouais.
Ah, la partie fun, quoi.
Voilà. Est-ce que il y a, on va dire que dans les dessins ou les tableaux que tu fais, est-ce qu'il y en a un, tu vois, qui t'a peut-être plus touché que les autres ou finalement ou pas forcément? Donc quand tu l'as fait, tu t'es dit waouh, ça me fait un truc.
Ouais, genre je suis vraiment je suis trop fière de moi, quoi.
Ouais, non, ou pas forcément, genre je suis trop fière, mais genre waouh, j'ai peut-être sorti quelque chose de moi ou de quelque chose un peu enfin qui toi quand tu l'as fini, tu te dis ça me fait quelque chose, quoi, tu vois.
Il y a un grand tableau bleu que j'ai fait l'année dernière mais que j'ai vendu, donc je ne peux plus le voir. Malheureusement. Mais je l'avais. C'était un tableau que j'avais réussi à faire techniquement quelque chose que j'avais encore jamais fait.
Ouais.
Et qui s'était bien fini. Voilà. Et ouais, j'étais. À chaque fois que je voyais, je fais waouh, j'ai fait ça, je suis contente, quoi. Enfin, et du coup, ça a ouvert la voie à faire plein d'autres choses derrière. Et c'est toujours quand on commence une série. Le premier, il est là, il ouvre une porte et puis après, on va faire cette série jusqu'à ce que, en fait, t'as pressé le truc jusqu'au bout et qu'il faille passer à autre chose, ouais. Sinon, un autre truc vraiment où je suis très, très contente, c'est le livre Panthère Party, quoi. Ça, c'est vraiment... je me suis extrêmement bien marrée à le faire. Ouais. Ça a été très long aussi à imprimer parce que... on est parti sur beaucoup de couleurs et puis la technique, la technique d'impression, c'était de la sérigraphie artisanale. Donc chaque planche avait 10 passages, 9 couleurs différentes.
Et oui, ok.
Enfin, 5 d'un côté et 5 de l'autre, mais il y avait du noir pour les deux. Donc ouais, il y avait 9 couleurs différentes, mais du coup 5 passages, mais c'était pas les mêmes couleurs de l'autre côté. Enfin bref, c'était... c'était un gros challenge, quoi, et je remercie encore Pierre Bolide pour son aide là-dessus, parce que ça a été un sacré chantier. Mais et en plus, les gens sont réceptifs à ce livre-là. Il y a pas une grosse explication, c'est vraiment juste des panthères qui font la fête. Enfin, c'est le pitch, ça va pas plus loin. Et les gens sont hyper réceptifs, le message passe et donc je suis hyper contente, quoi. Je me dis ah bah voilà, là je me fais comprendre. Donc c'est bien.
Marie-Baye, tu m'étonnes. Et cette partie livre, comme on en a parlé plusieurs fois, c'est vraiment un truc, on sent que ça te fait vachement envie.
Il y a comme un goût d'inachevé, ouais.
Ouais.
C'est sûr que le livre en sérigraphie, c'est quelque chose d'assez laborieux, parce qu'il y a quand même... l'air de rien, c'est beaucoup de travail.
Mais il y a aussi dans la micro-édition, il y a une pluralité de possibilités. C'est ça que j'ai envie d'explorer maintenant. En partie, je ne vais pas faire que ça, quoi. Mais, j'ai encore des maquettes de petits bouquins que j'avais envie de faire. Puis il y avait tout un système de plis, de choses comme ça. Et je me dis, mais pourquoi c'est encore là? Pourquoi c'est dans la boîte à projet et que c'est pas sorti, quoi? Donc voilà, là je ressors les choses, je les mets à jour et je me dis bah voilà, en fait je peux faire ça et ça, enfin voilà quoi. Donc je suis assez, j'ai un peu hâte, voilà.
Super, c'est cool. Et après dans les couleurs que tu utilises, est-ce que tu fonctionnes un peu par période? Enfin, il y a des moments où tu vas être, il y a beaucoup de bleu. Des bleus, oui. Mais qui sont peut-être un truc qui est peut-être un peu plus présent. Mais comment tu vis avec les couleurs que tu lis, qui sont en plus des... enfin c'est quand même un travail avec de la couleur qui est quand même assez vive, enfin elle est vraiment bien présente. Comment tu travailles ça?
Bah là c'est vraiment en fonction de l'idée que j'ai en tête. Il y a aussi un sentiment et il y a des couleurs attachées au sentiment qu'on peut avoir. Est-ce que je veux parler de quelque chose d'explosif, quelque chose de dangereux, quelque chose qui au contraire est un peu plus caché, ou c'est sûr que en fonction les couleurs vont être complètement différentes, quoi. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup le bleu dans ce que je fais. Il y a une couleur en particulier en gouache en plus qui est souvent en rupture de stock à cause de moi, désolée. J'ai aussi deux trois accords colorés qui sont mes préférés, quoi.
Ouais.
Ouais, la couleur elle vient parce que c'est pas seulement un objet qu'on représente. C'est aussi l'image, l'espèce de petite histoire qu'on s'imagine derrière. Est-ce que ça se passe le jour? Est-ce que ça se passe la nuit? Est-ce que c'est mystérieux? Est-ce qu'au contraire, on est dans quelque chose d'un peu... dans une sorte de frénésie? Est-ce qu'il y a du feu? Est-ce que... Enfin, on peut aussi faire du feu sans utiliser d'ambiance rouge. Ouais, oui. Au contraire, le feu, ça peut venir comme quelque chose de détonnant dans quelque chose de... Enfin, dans une ambiance beaucoup plus calme. Mm. Un élément perturbateur, ce genre de choses, quoi.
Oui.
Donc, non, la couleur, j'essaie de rendre... Enfin, j'ai pas envie de... C'est pas forcément gratuit, c'est vraiment quelle est l'ambiance que j'ai au moment où je pense à l'image que je veux dessiner, quoi.
Et comment ça... Enfin, j'imagine que t'as pas forcément une journée type, mais une journée où tu sais qu'aujourd'hui, tu vas... Enfin, tu vas créer, tu vas peindre, dessiner. Comment ça se passe?
Bah, comme tout est assez amovible ici, c'est vrai que je m'installe quand même assez rapidement. Et puis, j'y vais, quoi. J'aime bien avoir un documentaire en fond.
Ouais.
Je suis pas forcément musique quand je peins ou quoi. C'est souvent, je mets ou soit une série ou n'importe quoi, mais quelque chose qui n'a pas besoin de mon attention à 100%. Mmh. Et j'ai envie de dire ça part, quoi. Et puis j'aime bien les faire bon, après je dis pas, il y a des jours je suis obligée quand même de rentrer chez moi à un moment donné ou voilà, mais ça va être vraiment par bloc. Et par contre ça devient vite le bazar, parce que je suis très j'essaie d'être méticuleuse, mais par contre une fois que je suis partie dans mon truc, tout ce qui se passe autour,
ça compte pas.
Il y a des taches, il y a du scotch partout, on sait plus aligner un pied devant l'autre, voilà. C'est comme ça, hein.
Oui. C'est pas grave.
C'est
pas grave.
C'est un atelier. Après tout,
c'est fait pour.
Non, c'est ça. Donc bon, ça ressemble plus à de la frénésie qu'autre chose. Et puis quand j'ai envie de faire que ça, je vais faire que ça, quoi.
Ouais.
Voilà. Parce que je déteste. Parce que c'est pas constant l'envie de créer. Moi, c'est un peu, ça vient par vague, aussi en fonction de la technique. Mais quand ça va être vraiment à la main, c'est je rentre en mode bulle, quoi.
Eh oui.
Ouais, voilà. Il me faut du bruit en fond, ou même un podcast.
Ouais.
Enfin, désolée hein, pour du bruit. Et le monde autour n'existe plus. Et c'est.
Oui, t'es parti en fait.
Voilà. Et je regarde pas l'heure. Enfin, voilà.
Ouais. Et comment tu sais que t'as fini?
Ah, ça, on me l'a posé plein de fois la question, parce que c'est vrai qu'en plus je mets plein de trucs dans mes dessins.
Il y a plein de détails.
Il y a toujours un truc qu'on peut, et je me dis, mais est-ce que ce que je vais rajouter là, est-ce que ça aide à la compréhension de l'ambiance ou de l'image, ou est-ce que ça va ajouter quelque chose, ou au contraire ça va en retirer? Ça m'est déjà arrivé de retirer des choses parce que je fais non mais là n'importe quoi Marie vraiment. Et au contraire, par moment, il y a des images qui fonctionnent super bien avec beaucoup moins d'éléments.
Oui.
Et je me dis ah là il y a besoin de rien en fait. Et c'est un équilibre autant dans la, enfin juste dans la composition.
Oui.
Mais aussi dans la narration qu'on avait quoi. Est-ce que ça il y a besoin de trop en dire parce que c'est comme un film, hein. Faut pas en dire trop.
Il ne faut pas dévoiler le scénario aussi.
Exactement.
Derrière,
bah, voilà. Enfin, ou les phases de présentation qui n'en finissent pas. Enfin, donc non. Rester. On peut être bavard, mais ouais, voilà. Il y a des phases qui peuvent être bavardes, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et ça peut être très fourni dans la végétation, mais avoir au contraire un ciel après beaucoup plus. On va dire, vide à côté, ou parfois c'est
ouais, complètement en contraste. Ouais. Voilà.
C'est, j'ai envie de dire cette réponse, ouais, mais on le sait quand c'est fini, voilà, c'est tout.
Ouais.
Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui t'ont donné du fil à retordre ? Tu vois, où tu sais, tu as ton idée et tout, et puis en fait,
ah !
Est-ce que des fois c'est compliqué ?
Bah celle-là là-bas qui est pas finie, celle-là elle me donne du fil à retordre parce que c'est pas comme si j'avais pas l'idée,
ouais.
Mais comme je me suis arrêtée, t'as un élan, on te fait un gros croche-pied quoi, et
oui.
Le truc, j'ai commencé un truc, après il a fallu que je parte quelque part, enfin
ouais.
Et depuis impossible de me remettre dessus quoi, donc je la mets là. Elle me regarde tous les jours, elle me dit bon hein, et
je suis
oui
bon,
bah, je sais mais et en fait on n'en sort pas du tout. Donc ouais, ça c'est un aspect un peu agaçant. Après, vraiment fil à retordre sur le reste. Bah, souvent quand il y a un accident ou quelque chose qui sort pas, enfin, j'arrive à le retourner pour l'exprimer autrement ou voilà. Après, c'est pour ça que j'essaie de partir avec des idées trop précises.
Ouais.
Parce que quand justement je m'enferme dans une idée trop précise de ce que je veux et d'un rendu que je veux sans laisser place. À l'imprévu quoi. C'est souvent là que au bout d'une demi-heure je me rends compte que je fais n'importe quoi, que ça me plaît pas du tout et je recommence autre chose, et là je vais faire quelque chose qui me plaît parce que j'ai lâché prise quoi.
Ouais.
Voilà.
Dans toi, dans ta façon de travailler, est-ce que t'as vu aussi des choses qui évoluent, des choses qui se mettent en place que tu faisais pas forcément avant? Est-ce que toi t'as Au fil du temps, t'as changé ta façon de travailler ou pas tant que ça?
Je pense que ça prend plus de place parce que j'étais un peu trop timide,
ouais.
Trop en mode de coin de bureau, quoi. Parce que comme si je dessinais dans le salon de quelqu'un d'autre, quoi.
Oui, c'est ce que tu veux dire.
Donc, bah non, en fait. D'où l'intérêt d'avoir un atelier ou un endroit un peu dédié, parce qu'on se dit bon allez là tu peux t'étaler voilà. Mais sinon niveau évolution de travail, je pense que c'est aussi les outils, il y a de plus en plus d'outils différents. J'étais cantonnée à, on va dire, beaucoup le crayon de couleur ou le crayon tout court, et au fur et à mesure du temps j'écouvre de nouvelles choses, et puis même parfois, je vais faire que du numérique ou je sais pas, l'évolution. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de gros tournants ou quoi, donc il y a juste une suite logique, quoi.
Ouais, finalement, t'avances et puis t'évolues par petites touches.
C'est ça. Puis à un moment, je vais voir un nouveau papier, je vais faire oh là, ça a l'air pas mal ça. Comment je peux, parce que le papier, ça peut changer tellement de choses. On peut utiliser la même gouache, mais si c'est, enfin, le papier, il va pas avoir la même absorption, il va pas aussi, enfin, renvoyer les couleurs de la même manière. Enfin, les rendus peuvent être tellement, tellement, tellement différents, quoi. Donc, quand je vois ce que je peux faire avec tel papier, je me dis bah tiens, je partirai plus sur quelque chose de collé ou, enfin, un peu de collage et des choses un peu en pochoir. Un autre papier où justement je me dis ouais là je peux aller dans de la superposition, je peux m'éclater un peu plus là-dessus, enfin c'est ouais.
Ok. Et moi j'aime bien des fois réfléchir un peu au regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Et par exemple, si t'avais Marie qui est ado, ce que j'adore, enfin je fais une fixation un peu sur l'adolescence, c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, ou qu'est-ce que tu penses qu'elle se... Comment elle te regarderait? Marie, genre, 15 ans, quoi, 14-15 ans.
Ouais. Wow. Eh ben, c'est pas... Enfin, c'est marrant parce que j'y ai pensé il y a pas longtemps. Il y a des moments, je pense qu'à Marie de... je sais pas, peut-être pas forcément celle de 14-15 ans, mais en tout cas celle de 17-18, par moment, elle me mettrait des coups de pied aux fesses, quoi. Je crois. Un petit côté...
Genre, bouge-toi.
Bah, dis donc, t'as commencé à avoir des peurs un peu irrationnelles, là. Enfin... c'est que j'étais un petit peu plus fonceuse et un moment, puis avec le temps, c'est vrai qu'il y a certains trucs qu'on essaie de rationaliser un peu trop, donc on veut tout expliquer aussi, donc du coup, je devrais peut-être pas faire ça comme ça, je devrais faire un peu plus attention, enfin on se met plus de bâtons dans les roues, quoi, et je pense que, la Marie ado, il y a des moments, elle fait « waouh, comment t'as trop peur !» Mais il y a aussi un autre truc où elle dit « waouh !» En même temps, t'as pas de patron, trop bien.
Tu fais ce que t'avais envie de faire.
Ouais, aussi, cool. Non, mais je pense qu'il y aurait un moment, on se serrait la main, et un autre truc, genre « arrête d'avoir peur, ça t'inquiète, c'est cool. Mm. » Enfin, voilà.
Ok.
Et j'ai pas de patron.
Voilà. Bah oui, c'est vrai. Dans ton atelier, t'es bien. Et...
Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah après, c'était pas le but ultime. C'est vrai que ça fait partie de, du bonheur, dans mon cas.
Bah oui, après, attends, quand il y a un truc choisi et qu'on a envie, quand on y arrive, c'est super chouette, en fait.
Ah non, c'est clair. Puis, par contre, c'est vrai que si, à l'inverse, je vais dire, je vais dire quelque chose à Marie de 14-15, elle fait, bah voilà, tu vois, t'as bien fait d'écouter personne. N'écoute personne. Fais ce que tu veux.
Passe ta voix.
Écoute un peu, mais pas trop. Enfin, voilà.
Et justement, par exemple, toi, tes parents qui n'étaient pas du tout dans ce milieu, si j'ai compris, avec la boulangerie et tout.
Ouais.
Comment eux ils ont regardé toi ce que tu avais envie de faire et enfin
par rapport à eux. Faut savoir que c'est les fans numéro un.
Ah ça évidemment.
Et là, évidemment bah encore heureux.
Mais, ils ont pas le choix en fait.
Ça se trouve ils me mentent. Horrible. Non mais en vrai ma mère avait beaucoup plus peur que mon père en fait.
Ouais.
Mon père il a dit tu veux faire quoi moi tu fais ça bah t'y vas hein. Par contre tu bosses hein. C'était c'est la condition sine qua non. C'est mais en fait, tu fais ce que tu veux, hein, mais tu le fais bien et tu le fais à fond.
Mmh.
Ok. Et ma mère, il a fallu quand même attendre qu'il y ait des retours et que je montre que tu vois, ça se passe bien quand même. Enfin, j'aime ce que je fais et tout. Et puis. Voilà, maintenant il y a vraiment plus de problème quoi. Mais je parle vraiment là d'une époque complètement révolue quoi. Oui. Après il y a des choses qui sont un peu similaires aussi quoi. Après eux ils sont dans l'artisanat donc c'est pas exactement pareil, mais sinon la créativité, enfin je veux dire, mon père il en a aussi vachement, enfin puis l'air de rien, enfin ma mère aussi a beaucoup, enfin elle dessine beaucoup. Donc ça vient pas de nulle part non plus.
Oui.
Mais c'est juste tout le monde qui a autour, tout le contexte. C'est vrai que c'était pas forcément quelque chose qu'ils connaissaient. Mais après,
oui, c'était pas empêché de faire toi ce que t'avais envie de faire.
Exactement quoi. Ils ont été de très grands soutiens. Ils le sont toujours d'ailleurs.
Mmh. Ah, voilà. C'est important.
Ouais.
Super. Bah, tu vois, je regarde notre petit chrono. Bah, mine de rien, ça fait un peu plus d'une heure et quart que nous discutons.
Ah bah dis. Quand même.
Et du coup, je fais, ah bah non, ok, on a bien discuté. Je pense que j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour.
Ouais, on a, oui.
Oui, je sais pas si toi, t'avais des choses que t'as pas dites et que, ou je sais pas, ou un message que t'aurais eu envie de faire passer. Enfin, c'est comme tu veux.
Bah, aller dans les tiers-lieux. Aller voir les programmations culturelles ou parfois aller fouiller dans des... Parce qu'il y a des endroits cachés, surtout on est dans une région où il y en a énormément, quoi.
Mm-hmm.
Je veux dire, il peut y avoir le bouche à oreille, mais parfois il faut aller regarder aussi les programmations des mairies de quartier. On peut trouver des choses assez folles, quoi. Et découvrir des gens, découvrir des lieux incroyables. Et ma foi, voilà, c'est déjà pas mal, quoi.
Bah oui, c'est clair. Et du coup, je vais te poser les deux dernières questions que je pose en fin de podcast. Sur, bon, d'abord, moi, je lis énormément. J'ai beaucoup ciné. J'écoute énormément de musique aussi. Et donc, je suis toujours friande des recommandations de mes invités. Donc, si tu as un livre, un film, une musique, enfin, ce que tu veux, tu peux, que tu as envie de recommander, ben, c'est, n'hésite pas.
Et bah, film, sans hésitation, j'irai d'aller voir le dernier Miyazaki, qui n'a pas du tout eu de campagne marketing, qui sort vraiment dans le plus grand des secrets. Je sais plus dire si c'est un parti pris ou quoi, mais oui, le garçon et le héron, donc allez voir quoi, c'est Miyazaki quand même.
Ouais,
c'est super, c'est Miyazaki, père, hein. Donc voilà, c'était assez surprenant de me dire, je crois que j'ai entendu ça aussi au détour d'un podcast, ouais, il va y avoir un Miyazaki, je fais, mais enfin... Puis ça y est, là, il est sorti, donc faut aller le voir.
Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, j'y vais jeudi avec mon fils.
Ah bah voilà. Voilà. Bon bah,
on est tous les deux fans.
Oui, mais c'est vraiment super. J'ai montré, le voyage de Chihiro à mes deux neveux de 6 et 8 ans dernièrement. Alors, je sais pas si c'était une très bonne idée au départ, parce que ils se sont un peu posé des questions, surtout le passage où les parents sont changés en port, et qu'en fait, je me dis, mais ça doit faire énormément peur là, et en fait j'étais là, waouh les gars, je vais me faire trucider par les parents. Et en fait non, ils étaient juste très très curieux, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, je fais, non mais regarde, et en fait ils ont rien compris. mais bon, après ils étaient quand même, ils ont pas compris grand chose, mais ils étaient complètement hypnotisés par le truc quoi, ils ont voulu regarder jusqu'au bout, donc pas de problème, mais je crois que, enfin j'espère que qu'ils ont pas fait de cauchemar depuis, je suis désolée, voilà.
Non, mais c'est vrai que les films de Miyazaki, après ils ont une poésie et.
Mais non, mais c'est ça.
C'est merveilleux.
Après, je savais que Princesse Mononoke, je me dis non, peut-être pas quand même, ils sont un peu petits, mais Chihiro, j'avais oublié qu'il y avait 2-3 moments où c'était un peu dur. Mais
après, ils ont une grille de lecture qui n'est pas la même que nous. Donc, nous, en tant qu'adultes, ce qui nous paraît dur, et puis en fait, pour eux, c'est pas. Ouais. Moi, je sais que, tu vois, mon fils qui va avoir 7 ans, je pense qu'il a vu Chihiro à 5 ans. Et oui. En fait, lui, il a vu des choses que moi, je n'avais pas vues. Et là, il l'a re-regardé, je sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines, parce qu'il voulait revoir Chihiro avant d'aller voir le garçon et le héron. Et du coup, il me dit, ah, maintenant, j'ai compris d'autres choses.
Ah, bah, tu vois.
C'est intéressant, en fait.
C'est bien. Mais regarde, par exemple, je me rappelle de ma mère qui nous avait acheté Brisby, le secret de Nîmes, parce que c'était un dessin animé. Et mon Dieu, mais c'est trash. C'est hyper... Enfin, non, mais je me suis... Enfin, waouh. Moi, franchement, ce dessin animé, il m'a un peu trauma. Mais je l'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai que je me rends compte que je regardais ça, j'étais toute petite et ça m'a laissé des images en tête, mais l'enfer quoi.
Ouais.
Et par contre, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, je fais bon, bah, traumatisme d'enfance, bah, Brisby, enfin, vraiment quoi. Donc je me dis, est-ce que je leur ai fait une Brisby avec Chihiro? Je ne sais pas, mais voilà, nouvelle expression.
Ouais. Est-ce que, enfin, moi, j'aime bien. Dérouler les fils aussi avec mes invités et d'aller peut-être à la rencontre de personnes que je ne connais pas. Donc, si tu avais quelqu'un à me recommander pour le podcast.
Ouais, moi, je pensais à Monsieur César, qui est un ébéniste.
Ouais.
Voilà, qui a fait. Qui est un ami que je connais depuis un moment, mais qui a commencé des études en graphisme, en illustration. Donc, c'est quelqu'un qui dessine beaucoup. Et il a bifurqué vers. Vers l'ébénisterie, et il arrive vraiment à faire en meuble ce qu'il faisait en dessin, quoi. C'est assez fou, quoi. Donc, j'adore. Voilà.
Ok, super. Écoute, merci beaucoup, Marie, pour ce moment avec toi.
Merci à toi.
Et puis, c'était très cool. Très belle conversation, merci. Ouais.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage. Et dites-le-moi sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.